écoutez Alire FM 93.1. De l'huile sur le jeu. Une chronique par Antoine Marsay.
Vous êtes sur Alire FM 93.1.
Le palais de Moscou. Le 11 mars 1985, alors que l'URSS traverse une profonde crise économique et politique, Mikhail Gorbatchev arrive à la tête du pays. Face à l'érosion progressive du bloc de l'Est depuis le début de la décennie 80, Gorbatchev veut insuffler un nouvel élan à l'économie soviétique. Le temps des grandes manœuvres est deux maîtres mots, glasnost et perestroïka, soit transparence et reconstruction. L'URSS change de cap, mais doit pour autant continuer à assurer son image de pays avant-gardiste et combatif. Comme depuis plusieurs décennies, la mère patrie s'appuiera sur le sport. Mais cette fois-ci, pas d'athlétisme, pas de football. Plutôt une discipline locale, immanquablement associée au grand froid russe. Le hockey sur glace. Le hockey sur glace est un sport qui sied parfaitement au contexte de la guerre froide. Si l'on exclut le Canada, les États-Unis et l'URSS sont seuls au monde. D'un côté, la meilleure ligue du monde, la prospère NHL. De l'autre, une équipe nationale combative et élégante, qui semble synthétiser à elle seule l'idéal soviétique. Discipline et génie. Ainsi, pendant près de 20 ans, le rouleau compresseur soviétique a écrasé tous ses adversaires, sous la houlette d'un coach légendaire, Viktor Tikhonov. De façon assez surprenante, Tikhonov est nommé entraîneur de la sélection de hockey en 1976, alors qu'il est déjà entraîneur du CSKA à Moscou. Grâce à cette double casquette, il parcourt le pays et recrute les meilleurs prospects russes afin de les enrôler dans le club de la capitale. Son projet est simple. Il veut que les joueurs se connaissent sur le bout des doigts, qu'ils s'entraînent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble. Leur vie entière doit être dirigée vers le hockey et leurs coéquipiers. Alors que la génération qui a régné sur les années 70 vieillit, Tikhonov veut une nouvelle armada, à même de dominer la glace pendant une décennie. À la fin 1978, le coach tient ses cinq joyaux. Tout d'abord, Fetisov, le capitaine, un colosse au visage dur et sérieux. Puis on retrouve Makarov, un excentrique attiré par les mondanités et le luxe. Vient ensuite Krutov, décrit comme un loyal soldat prêt à tous les sacrifices. Le quatrième combattant s'appelle Larionov, dit le professeur, un cérébral paraît-il. Et enfin, cette escouade qui avait besoin d'un cœur pour avancer comptera sur Kassatonov, le sentimental. Et ces hommes se connaissent bien, car en URSS, le hockey sur glace est administré par l'armée. Depuis leur plus jeune âge, Fetisov, Makarov, Krutov, Larionov et Kassatonov jouent ensemble et sont rompus à la discipline militaire. C'est donc tout naturellement et sans aucun second degré que leur équipe est vite surnommée la Red Army. Alors que Tikhonov les prépare à prendre la relève, l'URSS se présente aux Jeux Olympiques de Lake Placid en 1980 dans la peau du favori. Ce sont encore les vieilles figures qui participent au tournoi quand les nouvelles têtes attendent patiemment leur tour sur le banc. Mais c'est la catastrophe. En finale du tournoi olympique, la mère patrie est battue par les États-Unis et doit monter sur la deuxième marche du podium en écoutant religieusement l'hymne américain. L'affront est immense, poussant même le provocateur Reagan à déclarer dans la foulée « America is back ». Tant pis. Les nouveaux devront laver l'honneur de leurs aînés et pour cela, Tikhonov prévoit une préparation inhumaine. Le maître mot est bien entendu la discipline. Les joueurs s'entraînent deux fois plus que dans n'importe quelle autre équipe. Ils enchaînent les exercices physiques jusqu'à devenir des machines d'endurance et de force. On parle de 3 à 4 entraînements par jour pour des joueurs qui n'ont même plus le droit de rendre visite à leur famille alors que certains d'entre eux viennent d'être pères. Comme à l'armée. Mais malgré ce programme millimétré, Tikhonov n'a pas oublié qu'il avait des joueurs de grand talent, donc une fois sur la glace, il laisse ses protégés une liberté presque totale. Aussi, ces cinq joyaux du régime développent un jeu particulièrement élégant, fait d'esquives, de permutations et de passes, qui désorientent complètement leurs adversaires. Au-delà de la seule qualité intrinsèque de leur jeu, ce qui frappe, c'est l'écart qui existe avec le hockey nord-américain, réputé rugueux, voire carrément violent. Les soviétiques dansent sur la glace comme dans un ballet, mettant leur perfection collective au profit de l'humiliation d'adversaires qui perdent sans cesse le palais de vue. Le jeu de la Red Army vient ainsi se faire relais de l'éthique communiste. Juste trop fort, Tironov et ses hommes raflent tout. Entre 1981 et 1989, il conquiert 5 titres mondiaux et 2 titres olympiques. Mais en 1989, alors que le mur tombe, la glace commence aussi à se fissurer. Les joueurs sont à bout. Ils veulent voir leur famille, eux qui n'ont parfois pas vu leurs enfants grandir. Leur coach leur répond que lui non plus ne voit jamais son fils, mais que c'est le prix à payer pour gagner et rendre fier son pays. Toutefois, Larionov, le professeur, publie un article dénonçant les méthodes dictatoriales de son entraîneur et soutient que la démocratisation du pays, amorcée par Gorbatchev, devrait également concerner les hockeyeurs, qui ne peuvent être réduits à des martyrs d'un communisme décadent. Malgré les menaces d'exclusion qui pèsent sur Larionov, Fetisov, capitaine de l'équipe, rejoint ses critiques. Toutefois, il poursuit un objectif plus personnel. Fetisov aimerait jouer en NHL, aux États-Unis. Et cette fois, l'affront est trop grand et il est démis de son capitanat et exclu de l'équipe par le ministre de la Défense soviétique. Mais le championnat du monde 1990 approche et les dirigeants soviétiques aimeraient voir l'équipe réaliser un dernier exploit. Fetisov est réintégré contre l'avis des autres joueurs restés fidèles à Tironov. La consigne est claire. Mettez de côté vos conflits internes et habillez-vous une dernière fois du costume de stakhanoviste de la glace. Le résultat est sans appel. L'équipe joue mieux que jamais, écrasant un à un ses adversaires pour remporter un 6e titre mondial ensemble, le 21e d'une URSS alors à son crépuscule. Ce tournoi marque ainsi la fin de l'époque dorée de la Red Army. Dans les mois qui suivent, le parti et l'armée, qui ont d'autres préoccupations, desserrent leur emprise sur l'équipe de hockey et laissent les joueurs rejoindre les États-Unis. C'est paradoxalement depuis le continent américain que Fetisov, Larionov et les autres vivront les dernières heures du système qui les a adorés en même temps qu'il les a broyés. Un étrange adieu pour les soldats du palais.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.